l'actualité culturelle et artistique de votre région avec Mag Culturel sur Radio Alpes-Mancelles. Laurence vous informe sur l'offre culturelle en milieu rural pour tout savoir sur ce qui se passe près de chez vous. Festivals, théâtre, concerts, expositions, rendez-vous sur le 106.3 FM chaque mardi de 11h à 11h30.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine culturel. Savez-vous ce qu'est la lutherie ? Vous avez envie d'en faire votre métier ? Ou alors découvrir ce qui pourrait être votre futur métier ? Si vous avez entre 15 et 30 ans, ce magazine est fait pour vous. Suzanne Chucholac et Bernard Poulelawen vont vous expliquer en quoi consiste la prochaine formation du CPFI. Suzanne Chucholac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice déléguée au Centre du patrimoine de la facture instrumentale au Mans. Vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce que c'est, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Donc le CPFI, c'est une institution qui existe au Mans depuis maintenant 18 ans. Et en fait, ça a été fondé par des luthiers, fabricants de guitares, fabricants de clavecins et en facteurs de kora africains. Qui se sont dit à l'époque, on voudrait bien créer un centre où on peut aller à la rencontre du savoir-faire de la lutherie, de la fabrication d'instruments, de musique. Cette idée est née aussi d'une rencontre de notre fondateur, Monsieur Bernard Poulelawen, avec à l'époque Jean-Jacques Ayagon, qui n'était pas encore ministre de la Culture. Mais il avait visité une exposition de Monsieur Poulelawen sur les instruments, la lutherie depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et lui a proposé une collection d'instruments de musique contenant 3000 instruments qui viennent du monde entier. Donc ces instruments-là, ils appartenaient à la ville de Paris. Suite à cette rencontre, Monsieur Poulelawen a pu récupérer cette collection et les amener au Mans, parce qu'avec l'aide du maire Jean-Claude Boulard, ils ont pu créer ce centre dédié à l'ethnologie et la facture instrumentale. Donc c'est un centre qui a un fonds d'instruments de musique avec lesquels on travaille avec les écoles. On propose des découvertes déjà de la musique qui existe dans le monde et aussi d'aller à la rencontre des cultures qui se trouvent derrière ces instruments de musique.
Vous proposez aussi des expositions, des ateliers, c'est bien ça ?
Oui, absolument. Donc on propose des stages de fabrication parce que nous, l'idée, c'est qu'on veut montrer la lutherie, la facture instrumentale et la découverte de la musique du monde. On propose d'aller à la rencontre et de la découverte de la musique et de la lutherie et qu'on puisse expérimenter soi-même les instruments qui existent et sans avoir de préconnaissances, on peut apprendre un instrument de musique parce qu'il y a des instruments qui sont issus d'une tradition orale qu'on peut apprendre sans avoir pris des cours au conservatoire et donc ces instruments-là, ils sont intéressants pour nous, tous les gens qui n'ont pas trop eu l'occasion d'aller au conservatoire par exemple. Et qu'ils ont quand même envie d'avoir une approche à la musique. Voilà. Donc nous, on propose cette approche-là à travers les instruments traditionnels et on propose aussi de découvrir la fabrication des instruments, la lutherie, avec ces instruments-là qui ont à la base été construits par des paysans, des gens qui vivaient dans le village. Ils ont fabriqué des instruments des fois avec des matériaux qui trouvaient autour de chez eux. C'est une manière pour fabriquer des instruments avec des choses très simples des fois, mais c'est des instruments fonctionnels et qui sont tout à fait adaptés pour faire des musiques très diversifiées.
Et vous-même, vous êtes ethnomusicologue ?
Oui, voilà, je suis ethnologue de formation. J'ai étudié l'ethnologie et la littérature allemande à l'Université de Berlin, à la Freie Universität et aussi à Marburg, en Allemagne. Après mes études de l'ethnologie, je me suis beaucoup intéressée à la ethnomusicologie, c'est-à-dire la rencontre des peuples à travers la musique. Je trouvais que cette approche était merveilleuse de découvrir une culture, découvrir un peuple en partant d'un instrument de musique ou partant d'une musique. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour aller à la rencontre des autres.
Vous proposez du 13 au 24 février une formation découverte des métiers de la facture instrumentale pour les jeunes entre 15 et 30 ans. Qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est un projet pour lequel on est missionné par la région Pays de la Loire. Et en fait, c'est la deuxième édition qu'on propose aux jeunes qui s'intéressent à la lutherie, qui s'intéressent aux métiers qui sont liés à des instruments de musique, mais qui ne savent pas encore peut-être si c'est une piste qu'ils peuvent choisir comme futur métier. On hésite, est-ce que c'est un métier où il y a du débauché, ou est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, ou je suis assez douée pour être facteur de guitare, par exemple. Donc nous, on propose d'aller visiter des luthiers de différents instruments et comme ça, les jeunes, ils peuvent se orienter. Aussi visiter par exemple une école des métiers de la musique, les fameux ITEM. Donc c'est prévu aussi dans notre formation d'aller visiter ces écoles pour connaître les pistes possibles qu'on peut prendre pour aller vers ces métiers qui concernent la fabrication des instruments. Et aussi le métier qui vient en annexe de ces métiers-là. Il n'y a pas seulement la personne qui va construire une guitare ou un piano, mais il y a aussi quelqu'un qui va fabriquer des feutres pour le piano. Donc il y a plein de métiers et nous on va découvrir ces métiers-là. On va passer aussi à la pratique. Il y a une semaine qui est dédiée à des visites et plus à une rencontre théorique, on va dire, et une deuxième semaine où on va passer la pratique, on va fabriquer un instrument traditionnel qu'on peut fabriquer en 5 jours chez nous, sitar des pays baltes, qui s'appelle kokle. Donc c'est un instrument à cordes avec des cordes métalliques qui en sont un peu comme une harpe. Un deuxième instrument qui sera probablement un instrument de percussion qu'on propose, et donc on peut choisir entre les deux approches, parce que voilà, des fois il y a des gens qui s'intéressent plus aux instruments à cordes, et des fois des gens qui s'intéressent plus à d'autres types d'instruments. Voilà, donc ce projet-là, en fait on a eu une première édition cette année en 2016, en février, pour lequel on était déjà missionné par la région Pays de la Loire pour le réaliser avec le jeune. On essaye de sensibiliser le jeune pour le patrimoine de la lutherie. Cette édition qu'on a réalisée, elle a eu un grand succès. Le participant était très enthousiasmé. Il y avait des gens qui ont ensuite choisi leur piste de futur métier. La région Pays de la Loire était aussi très enthousiaste par le résultat de cette découverte, formation. Et donc, on a proposé une deuxième édition pour le février 2017.
Et donc cette formation, c'est dans une logique de transmission du savoir-faire des artisans et des musiciens, c'est bien ça ?
Oui, absolument. Hein ? Donc on rencontre les professionnels de ces métiers et on peut poser des questions qui concernent les instruments, mais aussi qui concerne la vie quotidienne. Quelles sont les démarches, par exemple, à faire pour s'installer comme luthier. On propose aussi une formation chez nous au CPFI dans un premier temps où on va découvrir déjà les différents instruments de musique qui existent dans le monde. Donc on va découvrir la collection de nos 3000 instruments de musique où on a tous les types d'instruments existants.
Donc ça, c'est les deux premiers jours.
Et ensuite, on va voir ensemble quelles sont les approches pour fabriquer un instrument. Donc, on va par exemple regarder le plan de construction aussi. Donc, souvent, en fabriquant facteur d'instrument, il va d'abord faire un plan, dessiner un plan de l'instrument pour savoir de quoi est-ce que j'ai besoin pour fabriquer tel instrument. Après, on va aussi faire des visites, par exemple, dans une scierie ou dans une forêt, parce que bien sûr, les matériaux de base, c'est du bois, souvent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon bois? Quelle est la démarche pour distinguer différents bois? Comment fait le luthier pour se fournir des bois? Donc souvent, c'est un métier où on prévoit longtemps en avance, et là je ne parle pas de quelques semaines ou quelques années, mais de quelques siècles. Auparavant, le luthier, souvent, il préparait le bois pour son petit-fils qui allait fabriquer des instruments de musique avec le bois que le grand-père il avait coupé. Ceux qui construisent le violon sont nommés souvent les luthiers. Ça vient d'une tradition italienne du 15e, 16e siècle. Des luthiers qui sont très connus comme Stradivari ou ses successeurs. Normalement, quand on parle de luthier, on pense souvent aux facteurs de violon. Mais bien sûr, il y a plein d'autres instruments aussi qui ont été faits par les artisans. La guitare, mais aussi le clavecin, la harpe. Il y a aussi le piano, mais qui aujourd'hui est un instrument qui est fabriqué dans les usines par plusieurs personnes. Donc il y a une grande répartition des travaux. Il y a aussi le facteur de la trompette, par exemple. J'espère qu'on va pouvoir visiter l'atelier d'un facteur de trompette. Et la trompette est aussi un instrument par excellence pour voir que c'est des métiers qui sont très spécialisés aujourd'hui. Donc souvent, on a quelqu'un dans la fabrication de la trompette. On a une personne qui va fabriquer le pavillon de la trompette. Un autre qui va fabriquer que les embouchures. Et une troisième personne qui va fabriquer que le piston de la trompette. On voit là qu'aujourd'hui, on a fait un grand chemin. Il n'y a plus forcément que le luthier qui fabrique un instrument tout seul dans son atelier. Il y a des spécialisations assez importantes. Ça rend le métier, toute cette branche, très intéressant. Et il y en a en fait plein de talents qui sont nécessaires aujourd'hui pour fabriquer les instruments.
Et les jeunes donc, que vous allez recevoir, ils ont entre 15 et 30 ans. Ils s'intéressent, on suppose, à la musique. Et du coup, vous allez les emmener aussi au centre de formation au métier de la musique.
ITEM, qui est basé au Mans et avec lesquels on a des liens, on a des partenariats réguliers, c'est la première adresse à amener des personnes, s'ils intéressent à devenir facteurs d'un instrument, de visiter ITEM et de voir quel est le cursus que propose cette école. Ils ont différents modules à proposer pour le jeune. Ils proposent des CAP, des BMA, des BTS pour différents instruments de musique, mais aussi pour des métiers comme par exemple la vente des instruments de musique plus général. Donc il y a une section commerce dans cette école. C'est évident qu'il faut leur rendre visite pour connaître toutes ces possibilités pour le jeune, pour qu'il puisse ensuite prendre éventuellement une place dans cette école pour se faire former. Il ne faut pas avoir des préacquis pour fabriquer avec nous des instruments, mais il faut juste suivre nos conseils et on va, à la fin finir à partir avec son propre instrument qu'on a réalisé soi-même.
Et ce stage est entièrement pris en charge par la région des Pays de la Loire et donc c'est gratuit pour les participants.
Oui, absolument. Donc les participants n'ont rien à payer pour cette formation. L'hébergement éventuellement à prendre en charge, mais pendant les jours de formation, quand il y a du déplacement ou quand il y a de la nourriture, tout ça c'est pris en charge. C'est pour connaître l'approche à la fabrication d'instruments traditionnels et on va le comparer à la fabrication des instruments plus classiques, on va dire.
Très bien, merci beaucoup Suzanne Chucholek.
De rien, merci de m'avoir invité pour parler à l'antenne.
Avec plaisir. Est-ce que vous voulez rappeler les coordonnées?
Nous sommes le Centre du patrimoine de la facture instrumentale, le CPFI en cours, et on est dans la 11 rue de Frères Crébin au Mans. Quand on est au Mans, on peut descendre à l'arrêt de tram Lafayette pour nous retrouver. Notre numéro de téléphone, c'est le 02 43 43 81 05. 3xwcpfi-lemont.com.
Merci beaucoup, Suzanne Chucholek.
Oui, merci, à bientôt.
Bernard Paul-Lawen, bonjour.
Bonjour Laurence.
Vous êtes ethnomusicologue et le fondateur et ancien directeur du CPFI et vous enseignez actuellement des cours d'ethnomusicologie et anthropologie visuelle à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Marbourg en Allemagne depuis 2000 et donnez aussi des conférences. C'est bien ça?
Absolument, oui, entre autres.
Entre autres. Dans ce stage proposé par le CPFI du Mans, les jeunes vont visiter des ateliers de luthiers et autres facteurs d'instruments. Vous-même avez été facteur de guitare. Racontez-nous votre métier.
Alors, c'était un métier qui a eu des conséquences dans ma vie assez exceptionnelles, et permis beaucoup de rencontres. Si vous voulez, il n'existait pas, l'ITEM au Mans n'existait pas à l'époque, hein, donc il fallait vraiment faire le... avoir suffisamment de connaissances, connaître des luthiers, aller les embêter, etc. Moi, j'ai eu la chance d'aller embêter Keith Jones en Angleterre, et dont j'appréciais beaucoup le talent et le son de ses guitares. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 15 ans. Je n'ai pas que fabriqué, il y a une grande partie de mon temps qui partait aussi à la réparation et au réglage, bien évidemment.
L'ITEM au Mans est un établissement pour apprendre les métiers techniques autour de la musique, mais comment devient-on luthier ou facteur d'instruments aujourd'hui?
Il y a des écoles également en Angleterre, en Italie, en Allemagne, sous différentes formes. Ce n'est pas sous cette forme-là, et l'ITEM est unique en Europe, mais il y a d'autres formes possibles, bien évidemment. D'abord, il faut aimer ça, hein, parce que ça, si on n'aime pas ça, c'est foutu d'avance. Le problème, c'est que il faut beaucoup d'expérience. Alors, on ne peut pas se dire luthier comme ça, de but en blanc, les premières années. Il faut beaucoup de réflexion, beaucoup de patience, et essayer de... Vous savez, quand vous avez un morceau de bois entre les mains, est-ce que le morceau de bois va vous dire quelque chose, va vous parler? Est-ce qu'il va vous dire peut-être dans quel... partie de la guitare, il va le mieux être utilisé, voilà. Et ensuite, après, c'est le talent, mais il y a beaucoup de gens talentueux à travers le monde, et le premier conseil que je pourrais donner, c'est aller rencontrer les luthiers, essayer d'analyser pourquoi leurs guitares sont bonnes ou moins bonnes, ça peut aussi apprendre, bien évidemment, et voilà. Bon, après, il faut... Trouver des maîtres luthiers, c'est compliqué parce que le statut en France, c'est un statut d'artisan principalement, mais ça peut être aussi le statut d'artiste libre. Et il faut passer beaucoup de temps auprès d'un étudiant ou d'une étudiante pour lui expliquer, pour lui laisser le droit de se tromper, pour rectifier après le tir, etc. Or, pendant ce temps-là, le luthier ne travaille pas. C'est affilié, si vous voulez, au PME, mais alors très petites entreprises, hein, et donc l'apprentissage est un grand problème parce que ça demande un investissement de temps, aussi bien pour soi-même au début, aussi bien pour les étudiants qui veulent apprendre avec vous. Non, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui n'est pas assez pris en compte actuellement. Maintenant, dans la région Pays de la Loire, on a de la chance parce qu'il existe au Conseil régional une mission régionale des métiers d'art, avec Christophe de Delaunay, Marie-Christine aussi qui travaille, et puis d'autres. Et donc là, on peut avoir beaucoup de renseignements, des contacts pour avec les luthiers de la région pour essayer de les rencontrer. Ils sont quand même pas des gens fermés. Souvent, ils ont l'air un peu bourrus, mais en général, quand on est bourru, on a aussi bon cœur. Moi, j'en ai rencontré.
Et faut-il être ébéniste à la base?
Non, ça peut aider. Ça peut aider parce que c'est le travail du bois. Il y a une analogie, bien évidemment. Mais il faut être surtout aussi acousticien. C'est-à-dire, la matière, quand on fait un meuble, bon, bah, il est joli. Mais il n'est pas destiné à résonner, à sonner. Quand vous êtes luthier, vous fabriquez un outil de travail pour un musicien. Alors, c'est pas pareil qu'un meuble. C'est autre chose, hein. Ouais, ouais.
Et quels sont les débouchés aujourd'hui?
Quels sont les débouchés? Oh là! Eh bien, il y a des luthiers qui sont à leur compte. La plupart espèrent se mettre à leur compte, bien évidemment. D'autres préfèrent, quand c'est possible, être salariés dans les premiers temps d'un maître luthier. Mais il y a une tendance, là je voudrais dire quelque chose, c'est qu'il y a eu longtemps en France une tendance à se dire, ce qui est vrai pour les violons archeterie par exemple, de se dire on va arrêter la formation en France parce que sur le marché il y a suffisamment de luthiers. Ça, c'est une position franco-française que je n'aime pas personnellement, parce que voulez-vous ? Les jeunes n'ont rien demandé, que le marché soit saturé ou pas. Et parmi les jeunes qui se présentent, on risque de mettre dehors ou de désintéresser un futur Stradivarius de la guitare, qui sait. Donc il faut donner sa chance, à mon avis, à toutes les générations, à tous les gens qui se présentent. Et après, c'est le talent qui va faire la différence. Et vous savez, la clientèle des musiciens est une clientèle très très exigeante et saura vite faire la différence. Donc de toute façon, il n'y a que les bons qui vont rester. Pourquoi avoir peur alors ?
C'est un message d'espoir, donc.
C'est un message totalement d'ouverture et d'espoir pour les jeunes générations. Je crois qu'ils ont besoin aussi de se sentir, pas bridés, quoi, mais au contraire, encouragés et à apprendre le meilleur. Voilà.
Qu'auriez-vous envie de dire, justement, à ces jeunes qui vont participer à ce stage ?
Alors, les jeunes que nous allons avoir, puisque c'est dans le cadre d'une mission, d'un projet régional, de la région Pays de la Loire, qui est d'encourager les jeunes, alors les jeunes jusqu'à 30 ans, aux métiers du patrimoine. Les métiers du patrimoine, souvent, on a en tête l'architecture, bien évidemment, mais on a très peu en tête le patrimoine immatériel, par exemple la musique, la chanson. Or, c'est aussi un patrimoine vivant. C'est un patrimoine qui, dès lors qu'il est écrit, c'est dommage puisqu'il est fixé. Or, le patrimoine vivant n'est jamais fixé, puisque par essence, il est vivant. Donc, il évolue, il change. L'improvisation a beaucoup de place. Et pour cela, ils ont besoin, les musiciens, d'un objet musical qui est l'instrument de musique. Donc, ce pont entre le patrimoine matériel et immatériel est extrêmement intéressant puisque beaucoup de jeunes s'intéressent à la musique, bien évidemment, et l'objet musical, du coup, prend un sens particulier, et le mot patrimoine aussi. Donc c'est un message, là encore, d'espoir que le Conseil régional veut donner aux jeunes, de pouvoir leur donner, comment dirais-je, les rendre curieux de ce qu'est le patrimoine, et de pas faire en sorte que le patrimoine soit vu seulement avec des lorgnettes de bâtiments, vous voyez, de bâtiments publics, de châteaux, etc. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup plus populaires que les châteaux, qui est l'instrument de musique. Alors, bon, généralement, on est un peu spécialisé quand même, hein, on ne peut pas non plus papillonner dans beaucoup de... Il y a des gens talentueux qui font ça. Moi, je n'ai pas été talentueux de ce côté-là. Je me suis intéressé aux guitares, et en plus aux guitares à cordes d'acier, et en plus des petites caisses et manches larges. Donc, c'est très particulier. Hein. Pourquoi ? Parce que ça me plaisait, j'avais pas envie de faire autre chose. Bon, après, ça a été comme ça, ça a été ma mesure à moi, mais la mesure des autres, c'est au contraire de faire... Si vous prenez Franck Cheval, par exemple, qui est un luthier mémorable, qui va rester dans notre histoire des luthiers français, il est talentueux, il est capable de faire toutes sortes de guitares, parce que la guitare, c'est aussi un monde, hein, il n'y a pas que la guitare classique, ou folk, ou jazz, ou électrique, ou demi-caisse, ou quart de caisse, c'est déjà un monde en soi pour différents types de musique. La guitare, ça n'existe pas, c'est les guitares.
La musique traditionnelle aussi demande beaucoup de capacités pour faire des instruments qui ne sont pas connus en France, mais qui sont dans le monde entier.
Oui, là encore, c'est un challenge que nous avons, c'est-à-dire, on a été rencontrer des musées en Europe, et on s'est rendu compte que dans les collections publiques, ou privé d'ailleurs, d'instruments de musique du monde, ce qu'on peut appeler instruments de musique du monde, que moi j'appellerais instruments de musique issus des traditions orales, eh bien personne, il n'y avait pas de diplôme en tout cas, qui donne une valeur à un savoir-faire, à une compétence. Ça n'existe pas encore en Europe. Donc il est temps, maintenant que les gens voyagent et que les instruments voyagent, qu'il y ait aussi l'établissement de cette compétence en Europe, et là l'ITEM devrait être intéressé par cette recherche-là, de mettre en place un diplôme pour les instruments dits de tradition orale qui voyagent à travers le monde, qu'on appelle vulgairement musique du monde. Hein, voilà. Mais ça, c'est, je crois qu'il est temps de s'intéresser à ça. Et au travers de notre collection d'instruments de musique du monde, justement, on en a plus de 3000 au CPFI au Mans, eh bien, cette richesse-là va être valorisée par les regards de ces jeunes qui vont venir les appréhender, ces instruments. Il y aura également une semaine consacrée à la fabrication d'un fac-similé. Et on va imiter, on va essayer de comprendre comment cette tradition orale fonctionne, parce que, vous savez, on est loin de l'approche scientifique, hein, avec des équations, on est loin de l'acoustique, de l'approche scientifique de l'acoustique, hein, dans les instruments de musique issus du 19e. C'est plutôt lié à l'expérience de la vie et de son écosystème, c'est-à-dire des matériaux qu'on va trouver là où on vit, quoi, tout simplement.
Et la dernière semaine, justement, comme vous le disiez, sera consacrée à la construction d'un instrument.
Oui. Alors, nous avons choisi un instrument qui, à la fois, comporte des difficultés, mais soit simple dans sa compréhension. Et nous avons choisi le couocle. Le couocle, c'est une sitar, famille des sitars, donc les cordes tendues au-dessus d'une caisse de résonance, qu'on retrouve dans tout le monde des pays baltes jusqu'en Finlande. Il prend des noms divers selon les langues natives des différents pays. Il s'appelait kankle, il s'appelle kuokle en Lettonie, il s'appelle kantele en Finlande et en Estonie. Donc ce kuokle, on en a l'expérience puisque on est toujours en contact avec les grands maîtres en Lettonie. Hein. Ils sont venus déjà chez nous plusieurs fois. Le dernier en date, c'était il y a quelques semaines. On est toujours en contact avec ces gens-là. Et on a travaillé sur cet instrument, c'est l'instrument national de la Lettonie, qui a aussi une histoire et qui est un instrument lié à la mort, qui est lié à la méditation. Alors que en Finlande, le kantele, qui est l'instrument cousin, est lié à la naissance du monde, puisqu'il a été créé par le fameux Vainamoinen, qui est un personnage mythologique du Kalevala, qui est le texte fondateur de la Finlande. Et qui est lié donc à la création du monde, donc à la naissance. Donc c'est l'opposé carrément du couocle letton. Oui, non seulement il y a une technique, mais il y a toute une culture derrière.
Toute une
Ce qui
histoire,
est important, hein. Ces jeunes, c'est de donner un sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire si la lutherie se résume à une technique, c'est vite fait. La technique, on peut l'apprendre. Mais tout ce qu'il y a derrière, tout ce que l'instrument représente en termes de symbole, en termes de vie culturelle qu'il y a derrière, ça représente des générations et des générations d'un peuple. Et là, du coup, on ouvre un monde, c'est un peu une boîte de Pandore qu'on ouvre. Et du coup, les jeunes s'intéressent. Ça prend un sens, cet instrument de musique. C'est pas un instrument de musique, c'est autre chose. C'est un pont entre deux cultures, c'est un pont entre des gens. Et qui nécessite une rencontre plus tard, bien évidemment. À tel point que l'année dernière, quand on a fait ce même stage, eh bien, il y a un des jeunes qui nous a accompagnés, parce que nous, on avait une mission universitaire en Lettonie, à Riga, et il nous a accompagnés. Il a joint mes étudiants, et il a découvert cette culture in situ. Ça, c'est passionnant.
Ah, c'est passionnant. En effet, c'est ce que j'allais vous dire. On pourrait vous écouter pendant des heures.
Ah oui, faut pas.
Tellement vous êtes passionnant. L'ethnomusicologie est vraiment un domaine aussi passionnant parce qu'on peut apprendre l'histoire des peuples et des traditions à travers la musique. Donc, merci beaucoup, Monsieur Poulelawen.
Merci à vous de m'avoir invité.
Avec plaisir.